Chapitre 4 Suite du 6 avril. Contournant l'angle sud des murailles, nous rentrons dans Jérusalem par l'antique porte des Mograbis. Personne non plus à l'intérieur des remparts. On croirait pénétrer dans une ville morte. Devant nous, ces ravins de cactus et de pierres qui séparent le mont Moria des quartiers habités du mont Sion. Terrain vague où nous cheminons en longeant l'enceinte de cet autre désert, le Haram el-Sherif, qui jadis était le temple. C'est vendredi soir, le moment traditionnel où chaque semaine, les Juifs vont pleurer en un lieu spécial concédé par les Turcs sur les ruines de ce temple de Salomon qui ne sera jamais rebâti. Et nous voulons passer, avant la nuit, par cette place des Lamentations. Après les terrains vides, nous atteignons maintenant d'étroites ruelles jonchées d'immondices et enfin une sorte d'enclos rempli du remuement d'une foule étrange qui gémit ensemble à voix basse et cadencée. Déjà commence la vague crépuscule. Le fond de cette place, entouré de sombres murs, est fermé, écrasé par une formidable construction salomonienne, un fragment de l'enceinte du temple, tout en blocs monstrueux et pareils. Et des hommes en longues robes de velours, agités d'une sorte de dandinement général, comme les ours des cages, nous apparaissent là, vus de dos, faisant face à ce débris gigantesque, heurtant de front ses pierres et murmurant une sorte de mélopée tremblotante. L'un d'eux, qui doit être quelque chantre ou rabbin, semble mener constamment ce cœur lamentable. Mais on le sait, si peu, chacun, tenant en main sa Bible hébraïque, exhale à sa guise ses propres plaintes. Les robes sont magnifiques, des velours noirs, des velours bleus, des velours violets ou cramoisis, doublés de pelleteries précieuses. Les calottes sont toutes en velours noir, bordées de fourrures à longs poils qui mettent dans l'ombre les nez en lames de couteau et les mauvais regards. Les visages qui se détournent à demi pour nous examiner sont presque tous d'une laideur spéciale, d'une laideur à donner le frisson, si mince, si effilé, si chafouin, avec de petits yeux sournois et larmoyants sous des retombées de paupières mortes. Des teints blancs et roses de cire malsaine, et sur toutes les oreilles des tire-bouchons de cheveux qui pendent comme les Anglaises de 1830, complétant d'inquiétantes ressemblances de vieilles dames battues. Il y a des vieillards surtout, des vieillards à l'expression basse, rusée, ignoble. Mais il y a aussi quelques tout jeunes, quelques tout petits juifs, frais comme des bonbons de sucre peint, qui portent déjà deux papillotes comme les grands et qui se dandinent et pleurent de même, une Bible à la main. Ce soir, du reste, ils sont presque tous des salardim, c'est-à-dire des juifs revenus de Pologne, étiolés et blanchis par des siècles de brocantage et d'usure sous le ciel du Nord, très différents des akhenazim qui sont leurs frères revenus d'Espagne ou du Maroc et chez lesquels on retrouve des teints bruns, d'admirables figures de prophètes. En pénétrant dans ce cours de la juiverie, mon impression est surtout de saisissement, de malaise et presque d'effroi. Nulle part je n'avais vu pareille exagération du type de nos vieux marchands d'habits, de guenilles et de peaux de lapin. Nulle part des nez si pointus, si longs et si pâles. C'est chaque fois une petite commotion de surprise et de dégoût quand un de ces vieux dos, voûtés sous le velours et la fourrure, se retourne à demi et qu'une nouvelle paire d'yeux me regarde furtivement de côté entre des papillotes pendantes et par-dessous des verres de lunettes. Vraiment, cela laisse un indélébile stigmate d'avoir crucifié Jésus. Peut-être faut-il venir ici pour bien s'en convaincre, mais c'est indiscutable. Il y a un signe particulier inscrit sur ses fronts, il y a un sceau d'opprobre dont toute cette race est marquée. Contre la muraille du temple, contre le dernier débris de leur splendeur passée, ce sont les lamentations de Jérémie, qu'ils redisent tous avec des voix qui chevrotent en cadence au dandinement rapide des corps. « À cause du temple qui est détruit !» s'écrie le rabbin. « Nous sommes assis solitaires et nous pleurons !» répond la foule. « À cause de nos murs qui sont abattus !» Nous sommes assis solitaires et nous pleurons. À cause de notre majesté qui est passée, à cause de nos grands hommes qui ont péri. Nous sommes assis solitaires et nous pleurons. Et il y en a deux ou trois de ces vieux qui versent de vraies larmes, qui ont posé leur Bible dans les trous des pierres pour avoir les mains libres et les agiter au-dessus de leur tête en geste de malédiction. Si les crânes branlants et les barbes blanches sont en majorité au pied du mur des pleurs, c'est que de tous les coins du monde où Israël est dispersé, ses fils reviennent ici quand ils sentent leur fin proche, afin d'être enterrés dans la sainte vallée de Josaphat. Et Jérusalem s'encombre de plus en plus de vieillards accourus pour y mourir. En soi, cela est unique, touchant, et admirable et sublime. Après tant de malheurs inouïs, après tant de siècles d'exil et de dispersion, l'attachement inébranlable de ce peuple à une patrie perdue. Pour un peu, on pleurerait avec eux, si ce n'était des Juifs, si on ne se sentait le cœur étrangement glacé par toutes leurs abjectes figures. Mais devant ce mur des pleurs, le mystère des prophéties apparaît plus inexpliqué et plus saisissant. L'esprit se recueille, confondu de ces destinées d'Israël, sans précédent, sans analogie dans l'histoire des hommes, impossibles à prévoir, et cependant prédites au temps même de la splendeur de Sion, avec d'inquiétantes précisions de détails. Ce soir est, paraît-il, un soir spécial pour mener deuil, car cette place est presque remplie. Et à tout instant, il y en arrive d'autres, toujours pareils, avec le même bonnet à poils, le même nez, les mêmes anglaises sur les tempes, aussi sordides et aussi laids, dans d'aussi belles robes. Ils passent, tête baissée sur leur Bible ouverte, et tout en faisant mine de lire leur Jérémiade, nous jettent de côté et en dessous un coup d'œil comme une piqûre d'aiguille. Puis ils vont grossir la main des vieux dos de velours qui se pressent le long de ces ruines du temple avec ce bourdonnement dans le crépuscule. On dirait un essaim de ces mauvaises mouches qui parfois s'assemblent collées à la base des murailles. Ramène les enfants de Jérusalem, hâte-toi, hâte-toi, libérateur de Sion. Et les vieilles mains caressent les pierres, et les vieux fronts cognent les murs, et en cadence secouent les vieux cheveux, les vieilles papillotes. Quand nous nous en allons, remontant vers la ville haute, par d'affreuses petites ruelles déjà obscures, nous en croisons encore des robes de velours et des longs nez qui se dépêchent de descendre, rasant les murs pour aller pleurer en bas. Un peu en retard, cela, car la nuit tombe. Mais vous savez, les affaires. Et au-dessus des noires maisonnettes et des toits proches, apparaît au loin, éclairé les dernières lueurs du couchant, l'échafaudage des antiques petites coupoles dont le mont Sion est couvert. En sortant de ce repère de la juiverie, où l'on éprouvait, malgré soi, je ne sais quelle préoccupation puérile, de vol, de mauvais œil et de maléfice, c'est un soulagement de revoir, au lieu des têtes basses, les belles attitudes arabes, au lieu des robes étriquées, les amples draperies nobles. Puis le canon tonne au quartier turc, et c'est ce soir la salve annonciatrice de la lune nouvelle, de la fin du Ramadan. Et Jérusalem, pour un temps, va devenir plus sarrasine dans la fête religieuse de Bayram. Samedi 7 avril. Un bruit de cloche d'église nous suit longtemps dans la campagne solitaire, tandis que nous nous éloignons à cheval, au frais matin, vers Jéricho, vers le Jourdain et la mer morte. La ville sainte très promptement disparaît à nos yeux, cachée derrière le mont des Oliviers. Il y a, çà et là, des champs d'orge verte, mais surtout des régions de pierres et d'asphodèles. Pas d'arbres nulle part. Des anémones rouges et des iris violets, émaillant les grisailles d'un pays tourmenté, tout en rochers et en désert. Par des séries de gorges, de vallées, de précipices, nous suivons une pente lentement descendante. Jérusalem est par 800 mètres d'altitude, et cette mer morte où nous allons est à 400 mètres au-dessous du niveau des autres mers. S'il y avait la route carrossable sur laquelle nos chevaux marchent si aisément, on dirait presque par instant l'Idumée ou l'Arabie. Elle est du reste pleine de monde aujourd'hui, cette route de Jéricho. Des bédouins sur des chameaux, des bergers arabes menant des centaines de chèvres noires, des bandes de touristes cooks cheminant à cheval ou dans les chaises à mules, des pèlerins russes qui se reviennent à pied du Jourdain, rapportant pieusement dans des gourdes l'eau du fleuve sacré, des pèlerins grecs de l'île de Chypre en troupes nombreuses sur des ânes, des caravanes disparates, des groupements bizarres que nous dépassons et qui nous croisent. Midi bientôt. Les hautes montagnes du pays de Moab, qui sont au-delà de la mer morte et que depuis Hébron nous n'avons pas cessé de voir, au levant comme une diaphane muraille, semblent toujours aussi lointaines, bien que, depuis 3 heures, nous marchions vers elles, et elles semblent fuir devant nous comme les visions des mirages. Mais elles se sont embrumées et assombries. Tout ce qui traînait de voiles légers au ciel dans la matinée s'est réuni et condensé sur leurs cimes, tandis que du bleu plus pur et plus magnifique s'étend au-dessus de nos têtes. À mi-route de Jéricho, nous faisons la grande halte dans un caravansérail où il y a des Bédouins, des Syriens et des Grecs. Puis nous remontons à cheval sous un ardent soleil. De temps à autre, dans les gouffres béants au-dessous de nous, très loin en profondeur, le torrent du Cédron apparaît sous forme d'un filet d'écume d'argent. Son cours ici n'a pas été troublé, comme sous les murs de Jérusalem, et il s'en va rapidement vers la mer morte, à demi caché au plus creux des abîmes. Les plans de montagne continuent de s'abaisser vers cette étrange et unique région, situé au-dessous du niveau des mers et où sommeillent des eaux qui donnent la mort. Il semble qu'on ait conscience de ce qu'il y a d'anormal en ce dénivellement par je ne sais quoi de singulier et d'un peu vertigineux que présentent ces perspectives descendantes. De plus en plus tourmenté et grandiose, le pays maintenant nous rend presque des aspects de vrai désert. Mais il y manque l'impression des solitudes démesurées qu'on n'éprouve pas ici. Et puis il y a toujours cette route tracée de main d'homme et ces continuelles rencontres de cavaliers et de passants quelconques. L'air est déjà plus sec et plus chaud qu'à Jérusalem, et la lumière devient plus magnifique comme chaque fois qu'on approche des lieux sans végétation. Toujours plus dénudées, les montagnes plus fendillé de sécheresse, avec des crevasses qui s'ouvrent partout comme de grands abîmes. La chaleur augmente à mesure que nous descendons vers les rives de la mer, qui sont en été un des lieux les plus chauds du monde. Un morne soleil darde autour de nous, sur les planches rochers, les pierrailles, les calcaires pâles où courent des lézards par milliers. Tandis que, en avant, là-bas, servant de fond à toute chose, la chaîne du Moab se tient toujours comme une muraille dantesque. et aujourd'hui des nuées d'orage la noircissent et la déforment, cachent les cimes ou bien les prolongeant trop haut sur le ciel en d'autres cimes imaginaires et donnant l'effroi du chaos. Dans certaines vallées profondes où nous cheminons un moment, enfermés sans vue entre des parois verticales, quelques centaines de chameaux sont à paître, accrochés comme de grandes chèvres fantastiques au flanc des montagnes, les plus hauts perchés de la bande se découpant en silhouettes sur le ciel. Puis nous sortons de ce défilé et les montagnes du Moab reparaissent, encore plus élevées maintenant et plus obscurcies de nuages. Sur ces fonds si sombres, se détachent en très clair les premiers plans de ce pays désolé. Des sommets blanchâtres et tout auprès de nous, des blocs absolument blancs, dessinés avec une extrême dureté de contour par le brûlant soleil. Vers 3 heures, des régions élevées où nous sommes encore, nous découvrons en avant de nous la contrée plus basse que les mers et, comme si nos yeux avaient conservé la notion des habituels niveaux, elle nous semble en effet n'être pas une plaine comme les autres, mais quelque chose de trop descendu, de trop enfoncé, un grand affaissement de la terre, le fond d'un vaste gouffre où la route va tomber. Cette contrée basse a des aspects de désert, elle aussi, des traînées grises miroitantes comme des champs de lave ou des affleurements de sel. En son milieu, une nappe invraisemblablement verte qui est l'oasis de Jéricho, et vers le sud, une étendue immobile d'un poli de miroir, d'une teinte triste d'ardoise qui commence et qui se perd au loin sans qu'on puisse la voir finir. La mer morte, enténébrée aujourd'hui par tous les nuages des lointains, par tout ce qui pèse là-bas de lourd et d'opaque sur la rive du Moab. Les quelques maisonnettes blanches de Jéricho peu à peu se dessinent, dans le vert de l'oasis, à mesure que nous descendons de nos sommets pierreux inondés de soleil. On dirait à peine un village. Il n'y a plus vestige, paraît-il, des 3 cités grandes et célèbres qui jadis se succédèrent à cette place et qui, à des âges différents, s'appelèrent Jéricho. Ces destructions, ces anéantissements si absolus des villes de Canaan et de l'Idumée sont presque pour confondre la raison humaine. Vraiment, il faut que sur tout cela ait passé un bien puissant souffle de malédiction et de mort. Quand nous sommes tout en bas dans la plaine, une accablante chaleur nous surprend. On dirait que nous avons parcouru un chemin énorme du côté du sud, et tout simplement nous sommes descendus de quelques centaines de mètres vers les entrailles de la terre. Et c'est à leur niveau abaissé que ces environs de la mer morte doivent leur climat d'exception. La Jéricho d'aujourd'hui se compose d'une petite citadelle turque, de 3 ou 4 maisons nouvelles bâties pour les pèlerins et les touristes, d'une 50aine d'habitations arabes en terre battue, à toiture de branches épineuses et de quelques tentes bédouines. Alentour, des jardins où croisent de rares palmiers, un bois d'arbustes verts parcouru par de clairs ruisseaux, des sentiers envahis par les herbages, où des cavaliers en burnous caracolent sur des chevaux à long crin. Et c'est tout. Au-delà du bois commence aussitôt l'inhabitable désert, et la mer morte se tient là, très proche, étendant son linceul mystérieux au-dessus des royaumes engloutis de Gomorre et de Sodome. Elle est d'un aspect bien spécial, cette mer, et ce soir bien funèbre. Elle donne vraiment l'impression de la mort, avec ses eaux alourdies, plombées, sans mouvement, entre les déserts de ses 2 rives, où de grandes montagnes confuses se mêlent aux orages en suspens dans le ciel. Dimanche 8 avril. De Jéricho, où nous avons passé la nuit, la mer morte semble tout près. En quelques minutes, croirait-on, il serait aisé d'atteindre sa nappe tranquille, qui est ce matin d'un bleu à peine teinté d'ardoise, sous un ciel dégagé de toutes les nuées d'hier. Et pour s'y rendre à cheval, il faut encore presque 2 heures, sous un lourd soleil, à travers un petit désert qui, moins l'immensité, ressemble au grand où nous venons de passer tant de jours. Vers cette mer, qui semble fuir à mesure qu'on approche, on descend par des séries d'assises effritées, de plateaux désolés, tout miroitant de sable et de sel. Nous retrouvons là quelques-unes des plantes odorantes de l'Arabie pétrée, et même des semblants de mirages, l'inappréciation des distances, le continuel tremblement des lointains. Nous y retrouvons aussi une bande de bédouins à peu près semblable à nos amis du désert, avec leurs chemises aux longues manches pointues flottant comme des ailes, avec leurs petits voiles bruns qu'attachent au front des cordelières noires et dont les deux bouts se dressent sur les tempes comme des oreilles de bêtes. Du reste, ces bords de la mer Morte, surtout du côté méridional, sont presque autant que l'île du Mai hantée par les pillards. On sait que les géologues font remonter aux premiers âges du monde l'existence de la mer Morte. Ils ne contestent pas cependant qu'à l'époque de la destruction des villes maudites, elle fut subitement débordée après quelque éruption nouvelle pour couvrir l'emplacement de la pentopole romabitique. Et c'est alors que fut engloutie toute cette vallée des bois où s'étaient assemblés contre Squarlor d'Anhor, les rois de Sodome, de Gomorre, d'Adama, de Séboïm et de Ségor. Genèse 14:3. Toute cette plaine de Siddim, qui paraissait un pays très agréable, arrosé de ruisseaux comme un jardin de délices, Genèse 13:10, et depuis ces temps lointains, cette mer s'est quelque peu reculée, sans cependant changer sensiblement de forme. Et sous le suaire de ces eaux lourdes, inaccessibles aux plongeurs par leur densité même, dorment d'étranges ruines, des débris qui sans doute ne seront jamais explorés. Sodome et Gomorre sont là, ensevelis dans ces profondeurs obscures. De nos jours, la mer Morte, terminée au nord par les sables où nous cheminons, s'étend sur une longueur d'environ 80 km entre deux rangées de montagnes parallèles au levant, celle du Moab, éternellement suintante de bitume, qui se maintiennent ce matin dans des violets sombres, et à l'ouest, celle de Judée, d'une autre nature, tout en calcaire blanchâtre en ce moment éblouissante de soleil. Des deux côtés, la désolation est aussi absolue. Le même silence plane sur les mêmes apparences de mort. Ce sont bien les aspects immobiles et un peu terrifiants du désert. Et on conçoit l'impression très vive produite sur les voyageurs qui ne connaissent pas la Grande Arabie. Mais pour nous, il n'y a plus ici qu'une image trop diminuée des fantasmagories mornes de là-bas. On ne perd pas de vue tout à fait d'ailleurs la citadelle de Jéricho. Du haut de nos chevaux, nous continuons de l'apercevoir derrière nous comme un vague petit point blanc, encore protecteur. Dans l'extrême lointain des sables, sous le réseau tremblant des mirages, apparaît aussi une vieille forteresse qui est un couvent de solitaires grecs. Et enfin, autre tache blanche, tout juste perceptible là-haut, dans un repli des montagnes judaïques, ce mausolée qui passe pour le tombeau de Moïse et où va commencer dans ses jours un grand pèlerinage mahométan. Cependant, sur la sinistre grève où nous arrivons, la mort s'indique vraiment imposante et souveraine. Il y a d'abord, comme une ligne de défense qu'il faut franchir, une ceinture de bois flotté, de branches et d'arbres dépouillés de toute écorce, presque pétrifiés dans les bains chimiques, blanchis comme des ossements. Et on dirait des amas de grandes vertèbres. Puis ce sont des cailloux roulés, comme au bord de toutes les mers, mais pas une coquille, pas une algue, pas seulement un peu de limon verdâtre, rien d'organique, même au degré le plus inférieur. et on a vu cela nulle part, une mère dont le lit est stérile comme un creuset d'alchimie. C'est quelque chose d'anormal et de déroutant. Des poissons morts gisent ça et là, durcis comme les bois, momifiés dans le naphte et les sels. Poissons du Jourdain que le courant entraînait ici et que les eaux maudites ont étouffés aussitôt. Et devant nous, cette mer fuit, entre ses rives de montagnes désertes, jusqu'à l'horizon trouble avec désert de ne pas finir. Ses eaux blanchâtres, huileuses, portent des taches de bitume étalées en larges cernes irisées. D'ailleurs, elles brûlent et on les voit comme une liqueur corrosive, et si on y entre jusqu'aux genoux, on a peine à y marcher tant elles sont pesantes. On ne peut y plonger ni même y nager dans la position ordinaire, mais on flotte à la surface comme une bouée de liège. Jadis, l'empereur Titus y fit jeter pour voir des esclaves liés ensemble par des chaînes de fer, et ils ne se noyèrent point. Du côté de l'est, dans le petit désert de ces sables où nous venons de marcher pendant 2 heures, une ligne d'un beau vert d'émeraude serpente, un peu lointaine, très surprenante au milieu de ces désolations jaunâtres ou grises, et finit par aboutir à la plage funèbre, c'est le Jourdain, qui arrive entre ces 2 rideaux d'arbres dans sa verdure d'avril toute fraîche, se jeter à la mer morte. Encore 1 heure de route à travers les sables et les sels pour atteindre ce fleuve aux eaux saintes. Les montagnes de la Judée et du Moab commencent à s'enténébrer comme hier sous des nuées d'apocalypse. Là-bas, tous les fonds sont noirs et le ciel est noir au-dessus du morne étincellement de la terre. Et en chemin, voici qu'un muletier syrien de Beyrouth, grand garçon naïf d'une 15aine d'années que nous avons loué à Jérusalem avec sa mule pour porter notre bagage, se met à fondre en larmes, disant que nous l'avons emmené ici pour le perdre, nous suppliant de revenir en arrière. Il n'avait encore jamais vu les parages de la mer morte. Il est impressionné par ces aspects inusités ou hostiles. Il est pris d'une espèce d'épouvante physique du désert. Alors nous devons le rassurer, le consoler comme un petit enfant. Quelques ruisseaux bruissant sur le sable et les pierres annoncent d'abord l'approche du fleuve. Puis subitement, l'air s'emplit de moustiques et de moucherons noirs qui s'abattent sur nous en tourbillons aveuglants. Et enfin, nous atteignons la ligne de fraîche et magnifique verdure qui contraste d'une façon si singulière avec les régions d'alentour. Des saules, des coudriers, des tamarisques, de grands roseaux emmêlés en jungle. Entre ces feuillages qui le voilent sous leur épais rideau, le Jourdain roule lourdement vers la mer morte, ses eaux jaunes et limoneuses. C'est lui qui, depuis des millénaires, alimente ce réservoir empoisonné, inutile et sans issue. Il n'est plus aujourd'hui qu'un pauvre fleuve quelconque du désert. Ses bords se sont dépeuplés de leurs villes et de leurs palais. Des tristesses et des silences infinis sont descendus sur lui comme sur toute cette Palestine à l'abandon. À cette époque de l'année, quand Pâques est proche, il reçoit encore de pieuses visites. Des hordes de pèlerins, accourus surtout des pays du Nord, y viennent, conduits par des prêtres, s'y baignent à robe blanche comme les chrétiens des premiers siècles, et emportent religieusement dans leurs patries éloignées quelques gouttes de ses eaux ou un coquillage, un caillou de son lit. Mais après, il redevient solitaire pour de longs mois, quand la saison des pèlerinages est finie, et on ne voit plus de loin en loin passer que quelques troupeaux, quelques bergers arabes moitié bandits. Vers le milieu du jour, nous sommes rentrés à Jéricho, d'où nous ne repartirons que demain matin, et il nous reste des heures tranquilles du soir pour parcourir la silencieuse oasis. Une sorte de grand bocage mélancolique, où souffle un air extraordinairement chaud et où vivent, grâce à la dépression profonde du sol, des bêtes et des plantes tropicales. Alliés, fouillis d'arbres verts, d'arbustes plutôt et d'herbages, le faux baumier ou baumier de Galant, le pommier de Sodome et le Spina Christi aux épines très longues, qui, suivant la tradition, servit à composer la couronne de Jésus. Aux temps antiques, c'était ici une contrée de richesse et de luxe, comme de nos jours la Provence ou le golfe de Gênes, et on y faisait des jardins merveilleux, renommés par toute la terre. Salomon y avait acclimaté les premiers baumiers rapportés de l'Inde. L'eau, amenée de tous côtés par des canaux, permettait d'entretenir de grands bois de palmes, des plantations de cannes à sucre et des vergers pleins de roses. Toute cette plaine était couverte de maisons et de palais. Aujourd'hui, plus rien. Et les traces même de cette splendeur sont effacées. Des amas de pierres, çà et là, d'informes ruines émiettées sous les broussailles, servent aux discussions des archéologues. On ne sait plus bien exactement où furent les trois villes célèbres qui, tour à tour, s'élevèrent ici. Ni la Jéricho primitive, dont les murs tombèrent au son des trompettes saintes et que Josué détruisit, ni la Jéricho des prophètes où vécurent Élisée et Élie, qui fut offerte comme un cadeau royal par Antoine à Cléopâtre, puis vendue par Cléopâtre à Hérode, et ornée par celui-ci de nombreux palais, et enfin complètement détruite sous Vespasien, ni la Jéricho des premiers siècles de notre ère, bâtie par l'empereur Hadrien, devenue évêché dès le IVe siècle et encore célèbre au temps des croisades par ses ombrages de palmiers. Fini et anéanti tout cela. Non seulement les palais ont disparu avec les temples et les églises, mais aussi les dattiers et les beaux arbres rares ont fait place aux broussailles sauvages qui recouvrent à présent l'oasis d'un triste réseau d'épines. Par les vagues sentiers, parmi les buissons épineux et les ruisseaux d'eau vive, nous errons longuement aux heures lumineuses du soir. Très loin, un petit pâtre arabe nous mène voir des amoncellements de pierres qui forment comme un immense tumulus et où se distinguent encore, entre les herbes et les ronces, quelques blocs jadis sculptés. Laquelle des trois Jéricho est là, devant nous, pulvérisée? Probablement celle d'Hérode, mais on n'en sait rien au juste, et d'ailleurs, peu nous importe la précision des détails dans l'ensemble de tout ce passé mort. Le coucher splendide du soleil nous trouve presque égarés au milieu de cette espèce de bocage funéraire qui est jeté à la façon d'un grand linceul sur le sol plein de poussière humaine. Et nous pressons le pas, nous déchirant un peu aux épines des baumiers de Galaad. Pendant notre promenade solitaire, nous n'avons rencontré qu'un troupeau de chèvres et deux ou trois bédouins de mauvaise mine armés de bâtons. Mais dans les branches, c'est une agitation joyeuse d'oiseaux de tout plumage qui s'assemblent pour la nuit, et on entend de divers côtés le rappel des tourterelles. Cette plaine en contrebas des mers, dans laquelle nous marchons, est partout environnée de montagnes. Il y a d'abord un millier de mètres de distance, montrant au-dessus des bois son sommet rougeâtre, ce mont de la Quarantaine, où, d'après la tradition, le Christ se retira pour méditer pendant 40 jours, et qui est resté depuis tantôt 19 siècles comme une sorte de thébaïde aux cavernes toujours hantées par des moines solitaires, des ermites à longs cheveux. À l'occident s'en va la chaîne lointaine des montagnes de la Judée, déjà dans l'ombre, tandis qu'au levant et au sud, les cimes de la Sodomitide concentrent tous les derniers rayons du soleil, éclatent dans une sinistre splendeur au-dessus de cette nappe assombrie qui est la mer morte. Tout cela, cependant, n'est encore rien après les désolations, les éblouissements roses de la Grande Arabie, dont nous gardons le souvenir, l'image comme gravée au fond de nos yeux. Au chaud crépuscule, quand nous sommes assis devant le porche de la petite auberge de Jéricho, nous voyons accourir sur un cheval au galop affolé un moine en robe noire, les longs cheveux au vent. C'est l'un des solitaires du mont de la quarantaine qui a tenu à arriver le premier pour nous offrir des petits objets en bois de Jéricho et des chapelets en coquillage du Jourdain. À la nuit tombée, il en descend d'autres qui ont la pareille robe noire, la même chevelure épaisse autour d'un visage de bandit et qui entrent à l'hôtel pour nous proposer des petites sculptures et des chapelets semblables. Elle est tiède la nuit d'ici, un peu lourde, très différente des nuits encore froides de Jérusalem, et à mesure que s'allument les étoiles, un concert de grenouilles commence partout à la fois, sous l'enchevêtrement noir des baumiers de Galaad, si continue et d'ailleurs si discret que c'est comme une forme particulière du tranquille silence. On entend aussi des aboiements de chiens de berger là-bas, du côté des campements arabes. Puis de très loin, le tambour et la petite flûte bédouine, rythmant quelques fêtes sauvages. Et par instants, bien distinct de tout, le fossé lugubre d'une hyène ou d'un chacal. Maintenant, voici même un refrain inattendu des estaminets de Berlin qui éclate tout à coup, comme en dissonance ironique, au milieu de ces bruits légers immeubles des vieux soirs de Judée. Des touristes allemands, qui sont là depuis le coucher du soleil, campés sous les tentes des agences. Un homme de Coux, venu pour voir et profaner ce petit désert à leur portée. Passé minuit, quand tout enfin se tait, le silence appartient au rossignol, qui emplit ce oasis d'une exquise et grêle musique de cristal. Lundi 9 avril. Nous quittons dès le matin Jéricho pour remonter vers Jérusalem. Dans les sentiers coupés de clairs ruisseaux, sur les herbes entre les baumiers verts, il y a une certaine animation de cavaliers arabes qui galopent au soleil levant sur des chevaux harnachés de mille couleurs. Au sortir des plaines profondes, quand nous entrons dans les calvaires blancs des montagnes de Judée, une cuisante chaleur nous accable et nos chevaux marchent péniblement sur cette route qui monte en lacets rapides. Nous nous élevons par degrés au-dessus de la région étrange, en contrebas de tous les pays et de toutes les mers. La lumière est dure et éblouissante sur les blancheurs des rochers et du sol. Il n'y a de noir que nos ombres, tout le reste est clair et fatigant à regarder. Derrière nous, le déploiement toujours plus immense des lointains, la mer morte aux immobilités d'ardoise et les montagnes bitumineuses de la Sodomitide, tout cela semble par contraste un grand abîme obscur, tant sont blanches les choses rapprochées. Très noires, nos ombres qui se promènent sur les blanches pierres peuplées de lézards. Noirs aussi les passants que nous rencontrons maintenant de plus en plus nombreux, comme avant-hier en défilé presque continu. Des bédouins chassant devant eux des petits ânes par centaines. Des bédouins et des bédouins armés de longs fils de coutelas et de poignards. La corde de laine autour du front et les coins du voile arrangés aux oreilles de bêtes. Groupes archaïques et charmants, groupes d'hommes svelts et fauves, qui en nous croisant nous montrent dans un sourire de salut des dents de porcelaine, et des chameaux attachés à la file, et des troupeaux de chèvres innombrables menés par des petits bergers aux yeux de gazelle. Parfois, au fond de crevasses, de trous comme des entrées de l'enfer, on entend le cédron qui bruit, et l'on aperçoit un mince filet d'argent qui sautille dans son lit presque souterrain au milieu de l'obscur chaos de pierre. Les montagnes vont peu à peu verdir à mesure que nous approchons de Jérusalem. Pour le moment, de blanchâtres qu'elles étaient tout en bas, elles sont devenues fauves, et sur leurs croupes arrondies, il y a comme un mouchetage étonnamment régulier de petites broussailles brunes. On dirait qu'on les a recouvertes avec de géantes peaux de léopard. Depuis tantôt 2 heures, nous montons. La nature des roches est changée. L'air est plus froid et une légère teinte verte commence à s'étendre. Comme si elle s'était abîmée en profondeur, la mer morte a disparu au-dessous de nous avec les régions maudites d'alentour. Sur la route, continue le défilé des passants. Maintenant, c'est tout un pèlerinage de paysans cypriotes qui se rend au Jourdain, hommes, femmes et enfants montés sur des mules ou des ânes. Puis derrière eux, des barbes blondes ou rousses et des bonnets de fourrure. Des Russes, des centaines de Russes, très âgés pour la plupart, et quand même cheminant à pied, des moudjiks à cheveux blancs et des vieilles femmes à lunettes épuisées, branlantes. Protégés par leur pauvreté même contre les attaques bédouines, ils s'avancent sans peur en trottinant avec des bâtons. Ils ont tous en bandoulière des gourdes ou des bouteilles vides qu'ils rempliront pieusement au fleuve, grands-pères et grands-mères qui vont rapporter peut-être jusqu'à Archangel et aux rives de la mer Blanche un peu des eaux saintes, de quoi baptiser leurs petits-enfants. En nous croisant, ils nous disent bonjour. Ceux-là aussi, ils n'ont pas le joli geste des Bédouins ni leur joli sourire, mais leur salut plus lourd paraît plus franc et plus sûr. Au-dessous des cimes grises, les creux des vallées sont devenus tout verts. Il y a parfois des troupeaux qui paissent et des petits bergers en burnous qui jouent de la musette. Au même point que l'avant-veille, nous retrouvons les mêmes grandes bêtes percheuses découpées en silhouettes sur le ciel, au-dessus de nos têtes. Des chamelles qu'on a mises au champ avec leurs petits. Et enfin, les fleurs recommencent, émaillant partout les rochers le point rouge et le point rose. À mi-chemin, nous faisons halte au caravansérail où il y a foule aujourd'hui. Un caravansérail, c'est surtout une sorte de citadelle pour abriter les voyageurs et leurs montures contre les pillards des chemins. Du Levant au Maghreb, ils se ressemblent tous. Une cour, un carré d'épaisses murailles garnies d'anneaux de fer pour attacher les bêtes. Sur l'une des faces intérieures, un vaste hangar pour abriter les hommes, et près de la porte d'entrée, la tanière des gardiens du lieu, avec de petits fourneaux primitifs pour faire du café aux passants. Des bêtes sellées de toute classe et de toute espèce encombrent ce caravansérail de la route de Jéricho. Il en entre et il en sort à chaque instant, avec des ruades et des écarts. Chevaux de touristes à selle anglaise ou chevaux ébouriffés à grande selle arabe, les flancs et la poitrine surchargés de franges de toutes couleurs, longs dromadaires majestueusement bêtes, mulots harnais bariolés de perles et de coquilles, ânons modestes des plus pauvres pèlerins, pauvres ânons dépenaillés ayant sur le dos des vieilles toiles et des vieilles besaces. Et tout cela se mêle, s'entrave les pieds, s'affole et crie. Sous le hangar qui regarde cette cour, une centaine de personnes s'empressent à déjeuner, avec des provisions apportées, bien entendu, le caravar en sérail ne fournissant que l'eau fraîche, le café, le narguilé et la protection de ses murs. Les uns mangent sur des tables, les autres, qui n'en ont plus trouvé, s'arrangent par terre, groupés presque élégants de touristes anglais ou américains, groupes plus humbles de pèlerins grecs, amas de pèlerins russes, têtes de vieux braves avec des médailles à la poitrine, faisant bouillir par terre sur des feux de branches des petites soupes au pain noir. Beaux guides syriens, tout brodés de soie, poseurs avec des cheveux à la capoule échappés du turban, en coquetterie avec les dames touristes des agences. Et des Turcs et des Serbes, et des prêtres qui déjeunent en tenant leurs ânons par la bride, et des moines blancs et des moines bruns, et des bédouins, mangeant avec leurs doigts, comme au désert, déchiquetant à belles dents blanches d'immondes débris de poulet. À la table voisine de la nôtre sont assises des jeunes femmes maronites, les unes en costume encore un peu national, long manteau de velours et d'hermine, cheveux pris dans un mouchoir pailleté, les autres, hélas, en chapeau à fleurs, habillées, comme il y a 5 ou 6 ans, les grisettes de France. Charmantes quand même, à force d'être fraîches, d'avoir de grands yeux. Et un échange amical de dattes et d'oranges s'établit entre notre table et la leur, tandis que nous faisons passer des tranches de pain blanc à de vieux moujiks accroupis à nos pieds. Vraiment, pour rencontrer si étrange et si cordial Babel, il faut venir en temps de pèlerinage sur les routes de Palestine. Et dans quelques jours d'ici, après les fêtes de Pâques, ce caravansérail va se retrouver pour de longs mois silencieux et vides, sous un soleil devenu dévorant. 3 heures encore après cette halte pour monter à Jérusalem. Et toujours nous rencontrons des pèlerins, même des pèlerins musulmans, qui commencent à descendre vers la mer morte pour les dévotions annuelles au tombeau de Moïse. Des groupes de Turcs et d'Arabes, des hommes à pied, des femmes entièrement voilées de blanc, assises sur des petits ânes. De longs chalands dromadaires passent aussi, portant sur le dos des choses immenses et légères qui leur font à chacun comme les ailes éployées d'un papillon, sorte de panier que recouvrent des étoffes rouges tendues sur des cerceaux d'osier et dans lesquels voyagent, commodément, d'invisibles dames. Sur la route, le village de Béthanie, où Jésus aimait venir, est au pendant d'une montagne, entouré de quelques oliviers, de quelques figuiers, de champs magnifiquement verts. Très misérable petit village, aujourd'hui tout arabe, maisonnettes en ruine, informes écroulements de pierre. Le vent froid des hauteurs y souffle en ce moment, agitant les branches, les herbes folles, le velours des orges nouvelles. Et des milliers de coquelicots, d'anémones, le long des petits chemins ou sur les vieux murs, jettent leurs vives taches rouges. Nous mettons pied à terre au milieu d'enfants en haillons charmants, accourus pour tenir nos chevaux. Et c'est devant un vieux portique ogival, enduit de chaux blanche, sur lequel, pour célébrer quelque retour heureux de la Mecque, on a peinture lurée, suivant l'usage, des arabesques naïves, bleues, jaunes et roses. Çà et là, dans les décombres et sous les herbes, gisent des fragments de colonnes, débris des églises des premiers siècles ou du grand couvent des croisades. On nous montre, attenant à une humble mosquée, un faux tombeau de Lazare, ailleurs de très contestables ruines de la maison de Marie et de Madeleine. Mais non, rien de tout cela n'est pour nous émouvoir. Les souvenirs terrestres du Christ ne se retrouvent vraiment plus ici. Il est trop tard, des mains humaines trop nombreuses ont bouleversé à la Béthanie de l'Évangile avant la venue de ces tranquilles habitants d'aujourd'hui. Sitôt après Béthanie, nous découvrons la vallée de Josaphat et Jérusalem aussi reparaît, intacte de ce côté-ci, superbe et désolé, profilant très haut sur le ciel sa muraille sarrasine que dépassent ses coupoles grises. Mardi 10 avril. Visité pendant la matinée le trésor des Latins. C'est dans des sacristies dépendantes de la grande église franciscaine un amas de richesses. Depuis le Moyen-Âge, des rois, des empereurs, des peuples n'ont cessé d'envoyer des présents magnifiques vers cette Jérusalem dont le prestige immense est aujourd'hui si près de mourir. On nous montre de grands revêtements d'autel qui sont des plaques d'argent et d'or, des flambeaux d'argent hauts de 10 pieds, des croix de diamants et des ciboires d'or émaillés, une exposition pour le Saint-Sacrement en or et pierreries, offerte jadis par un roi de Naples et pouvant valoir de 4 à 5 millions. Dans des séries d'armoires, des costumes sans prix pour les prêtres s'alignent enveloppés de mousseline et étiquetés, dons de la République de Venise, dons de l'Autriche ou dons de l'Italie. Rigides et somptueuses choses qui semblent brodées par des fées patientes dans toute la magnificence et la pureté des différents styles anciens. Le dernier des dons de la France est une suite d'ornements brodés d'abeilles d'or en haut relief sur drap d'or qui ne servirent qu'une fois, le jour du mariage de Napoléon III à Notre-Dame de Paris. Il y a une vénérable chasuble alourdie de cristal de roche et de pierre fine qui paraît dater des croisades. Une autre qui date de la Renaissance espagnole et qui est loin d'être la plus belle de cette collection prodigieuse, vient de rentrer ces jours-ci au trésor. On l'avait envoyée réparer dans un couvent de nonnes et la réparation, qui a coûté 15 000 francs, a duré 5 années. Une fois l'an, à tour de rôle, chacun de ces jeux de costumes est porté par les prêtres pendant les pompes asiatiques déployées au Saint-Sépulcre. Et tant de pièces précieuses ont déjà disparu, nous disent les aimables gardiens de ces merveilles. Les unes enfouies en terre, pendant les sièges, dans des cachettes qui n'ont plus été retrouvées, les autres enlevées pendant les pillages, les autres encore, des évangiles, des étoles, brûlées pendant la terreur des pestes, parce qu'elles avaient été touchées par des prêtres contaminés. Alors, en les écoutant dire devant ces amas de soieries et de dorures qu'ils déploient si complaisamment pour nous, notre pensée plonge une fois de plus au milieu des tourmentes superbes des vieux temps. D'ailleurs, dans cette ville entière, on sent se dégager de ce que l'on voit, de ce que l'on touche, et même sourdre mystérieusement du sol où l'on marche, l'âme d'un passé colossal, tout de magnificence et d'épouvante. Ces prélats de Jérusalem, si accueillants, auxquels on dit sans sourire « Votre grandeur, votre béatitude, ou même votre paternité révérendissime », semblent, du fait même qu'ils sont ici dans ces vieilles églises et ces vieilles demeures poussiéreuses observant des rites surannées, semblent être redevenus des hommes du Moyen-Âge. On ne peut leur en vouloir à eux-mêmes de suivre des errements séculaires. Mais de quelle étrange façon les catholiques et les orthodoxes ont compris la grande leçon de simplicité que Jésus est venu donner au monde. Certes, ils sont intéressants, ces prélats. Leurs cérémonies, leurs monuments et leurs trésors font revivre les époques de la foi aveugle et souveraine. Mais tout se passait des cultes magnifiques. Chacun sait, de reste, qu'il a existé. Et d'ailleurs, il ne prouve rien. Sa reconstitution ne peut être qu'un vain amusement pour l'esprit. Derrière ce Christ conventionnel que l'on montre ici à tous, derrière ce Christ trop auréolé d'or et de pierreries, trop rapetissé pour avoir passé pendant des siècles à travers tant de cerveaux humains, la vraie figure de Jésus s'efface maintenant à mes yeux plus que jamais. Il me semble qu'elle fuit davantage, qu'elle est plus inexistante. Durant les premières heures émues de l'arrivée à Bethléem et au Saint-Sépulcre, sous le seuil rayonnement de ces noms magiques, il s'était fait en moi comme un réveil de la foi des ancêtres. Ensuite, c'est dans la mélancolique campagne ou dans les ruines exhumées des voies hérodiennes qu'un reflet de lui encore m'était apparu, mais quelque chose de déjà plus terrestre, d'à peine divin et d'à peine consolant. Et maintenant, c'est fini. Aujourd'hui, en rentrant à Jérusalem après ces 3 jours d'absence, j'ai revu froidement le lieu du grand souvenir. Et ma visite au trésor des franciscains sans que je puisse m'expliquer pourquoi, achève de me glacer le cœur. Pendant notre courte absence, il est arrivé ici chaque jour des pèlerinages nouveaux. C'est l'époque de la grande animation de Jérusalem. De tous côtés, les foules accourent, les églises se parent pour la fête de Pâques qui sera bientôt. Les rues étroites sont encombrées de gens de tous les pays du monde. Ils passent des cortèges de pèlerins chantant des cantiques, des cortèges de petits enfants grecs psalmodiant à voix nasillarde et haute, des processions se croisent avec des défilés de mules aux harnais bordés de coquillages, dont les innombrables clochettes sonnent comme des carillons d'église. Et conduits par des bédouins sauvages, des chameaux entravent le tout, grandes bêtes inoffensives et lentes, accrochant les devantures des vendeurs de croix ou de chapelets avec leurs fardeaux trop larges. L'odeur des encens que l'on brûle est partout dans l'air. Et le son grave, le son étrange des trompettes turques perce la vague clameur d'adoration qui s'échappe des chapelles, des couvents et des rues, toujours plus grande aux approches de cette Pâque des Grecs, et qui sera au Saint-Sépulcre une fête semi-barbare et que j'aime mieux fuir. Plutôt, je m'en irai chercher là-bas le souvenir du Christ dans les petites villes de Galilée ou sur les bords déserts de ce lac de Tibériade où il a passé la majeure partie de sa vie. Jérusalem est trop idolâtre pour ceux dont l'enfance a été illuminée par les purs évangiles. Les yeux peuvent s'intéresser à son formalisme pompeux, comme d'ailleurs au coloris des choses de l'islam, mais c'est aux dépens des pensées profondes. Le Christ de l'Évangile, en somme j'étais venu pour lui seul, comme les plus humbles pèlerins amenés par je ne sais quelle naïve et confuse et dernière espérance de retrouver ici quelque chose de lui, de le sentir un peu revivre au fond de mon âme, ne fût-ce que comme un frère inexplicablement consolateur. Et ma détresse aujourd'hui se fait plus morne et plus désespérée de ce que même ici, son ombre achève pour moi de s'évanouir. Le Gethsémani. Depuis tant d'années, j'avais rêvé que j'y viendrais passer une nuit de solitude, de recueillement suprême, presque de prière. Et je n'ose plus. Et je remets de soir en soir, redoutant trop de me rencontrer là, comme ailleurs, que le vide et la mort.